Bonjour Héloïse de Neuville.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au quotidien La Croix. Vous signez le mois dernier une longue enquête sur l'incendiaire présumé de la cathédrale de Nantes. Cet homme, incarcéré pendant 10 mois, puis placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès, est soupçonné d'avoir tué un prêtre hier à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée, une congrégation qui l'hébergeait depuis sa libération. Il s'est rendu à la gendarmerie pour se dénoncer. Un meurtre qui a provoqué une onde de choc, mais Héloïse de Neuville, vous qui l'avez rencontré, qui avez enquêté sur lui, sur son parcours, quelle a été votre réaction? Surprise ou pas du tout?
Oui, pour être honnête, surprise. Parce que c'est un homme à la fois extrêmement fragile et en même temps qui m'avait été décrit comme quelqu'un de plutôt pacifique, qui aurait pu sans doute plus retourner cette violence contre lui-même. Non, j'aurais jamais pu imaginer qu'il en arrive là. Simplement, tout son parcours, et je pense qu'on en parlera, témoigne d'une extrême fragilité. C'est vraiment un polytraumatisé.
Oui, on ne sait pas grand-chose de cet homme de 40 ans né au Rwanda qui arrive en France en 2012. Donc vous l'avez rencontré quelques semaines après l'incendie de la cathédrale, dans sa cellule, en prison. Il vous parle à ce moment-là?
Alors moi, je l'ai pas rencontré directement, son avocat me disant que justement, il est beaucoup trop fragile pour des sollicitations médiatiques. En revanche, j'ai mené une enquête de plusieurs mois à Nantes, auprès de ses proches, et auprès de ses proches aussi, également au Rwanda, que j'ai pu contacter.
Oui, vous remontez le fil de son histoire. Il a 13 ans au moment du génocide des Tutsis en 94. Il vient d'une famille Hutu. Son père, son oncle seraient des génocidaires, Héloïse de Neuville.
Oui, complètement. C'est ce que me dit le parquet de Kigali, en tout cas. Son père a été exécuté sommairement pour avoir participé au génocide et son oncle paternel purge une peine de prison à vie. Donc, il grandit dans cette extrême violence-là. Lui n'a que 13 ans, mais il évolue vraiment dans un contexte extrêmement dégradé, avec une famille impliquée du mauvais côté de l'histoire génocidaire.
Qu'est-ce qui se passe ensuite pour lui? Il poursuit des études, il entre dans la police au Rwanda?
Oui, alors il rentre dans la police un peu par effet d'opportunité, par contact. Il a un petit boulot dans la police. Il est officier de police judiciaire, ce qui est le premier grade au Rwanda. Ce que j'ai compris, c'est qu'il n'aimait pas son poste. Et puis, au bout de 3 ou 4 ans, il déserte et il part pour la France. D'ailleurs, en mentant à sa famille, en expliquant qu'il part en mission en France pour son travail de policier, alors qu'il part fuir le Rwanda.
Et il dénonce des violences au sein de la police rwandaise, des violences anti-Hutu. Il dit lui-même avoir été victime de torture.
Oui, alors ça, c'est ce qu'il a raconté à plusieurs personnes à Nantes. Effectivement, qu'il aurait déserté la police parce qu'il aurait refusé de participer à des exécutions ou des basses besognes contre les Hutus. Simplement, c'est le récit qu'il a fait à l'OFPRA, donc l'office qui est chargé de vérifier son histoire d'asile en France. Et ça n'a pas convaincu l'OFPRA qu'il a, on en reparlera j'imagine, débouté.
Toutes ces demandes d'asile sont rejetées. Son récit n'est pas jugé crédible. Ça compte aussi dans son parcours.
Ouais, complètement. Et puis ça l'a énormément déstabilisé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il raconte son histoire. Il est débouté une première fois, puis il fait appel à la Cour nationale du droit d'asile qui lui dit « Monsieur, nous considérons que vous n'êtes pas persécuté dans votre pays, que vous ne risquez rien si vous rentrez. » Et puis là, va s'enchaîner une série de déboires avec appel, rejet. Il aura en tout 4 obligations de quitter le territoire français.
Oui, dont la dernière qui a été refusée puisqu'il était sous contrôle judiciaire suite à l'incendie de la cathédrale de Nantes. Quand vous menez votre enquête, Héloïse de Neuville, il y a une chose assez étonnante. Vous vous rendez compte que personne ne le connaît dans la diaspora rwandaise à Nantes. Ça interroge,
ouais.
Ça.
Ouais, c'est très curieux parce que c'est une diaspora qui est extrêmement solidaire. Ils se connaissent tous entre eux, ils se jaugent. Et là, anonymat complet, ils se mettaient même en retrait. Ils ne voulaient pas croiser de Rwandais. Alors, pour certains, c'est parce qu'ils voulaient s'intégrer en France et qu'ils cherchaient la compagnie de peut-être futurs compatriotes. Mais tout de suite, quand je contacte les diasporas rwandaises à Nantes et même dans l'Ouest, ça paraît extrêmement suspect.
C'est-à-dire, c'est quoi la suspicion derrière?
La suspicion, c'est qu'il puisse avoir été envoyé en France pour espionner la diaspora rwandaise à Nantes pour le compte du gouvernement de Paul Kagame, qui est, on le rappelle quand même, un gouvernement autoritaire. Et
Beaucoup de fantasmes quand même dans cette affaire, et difficile de faire la part des choses aussi. Il y a aussi son histoire avec l'Église. Il vit dans un foyer avec des membres du clergé nantais, il est bénévole ensuite à la cathédrale, il a été protégé par cette communauté. Comment est-ce qu'on explique ce lien avec la religion ?
Alors lui, il a évolué, il a grandi dans une famille extrêmement catholique. Le Rwanda est un pays très catholique. Il a une mère très pieuse, il avait un père très pieux. Ses frères, qui sont également au Rwanda, une fratrie de 12 enfants, sont également très pieux. Et en fait, ça va être son premier réflexe. Quand il arrive en France, quand il met le pied sur le sol national, il va tout de suite se mettre sous la protection de la communauté catholique. Son premier réflexe, c'est d'aller voir le diocèse, c'est d'aller voir le Secours catholique pour l'aider dans ses démarches administratives. Il va être hébergé aussi dans une fraternité protestante. Et puis, bien sûr, il sera bénévole à la cathédrale de Nantes, où il servira même la messe en eau blanche comme un servant d'hôtel.
L'incendie de la cathédrale en juillet 2020, le meurtre du prêtre Olivier Maire hier, donc des actes pour lesquels il est soupçonné, ce sont clairement des actes dirigés contre cette communauté. Tout ça, ça paraît paradoxal, vu le lien que vous venez de décrire qu'il entretient avec la communauté.
Ouais, c'est très curieux, et c'était d'ailleurs l'objet de l'enquête de la Croix, c'était d'essayer de comprendre comment cet homme-là avait pu se retourner finalement contre la communauté qu'il avait accueillie, soutenue, parfois hébergée. En fait, moi, ce que j'ai pu comprendre à travers son parcours, c'est que, en tout cas, ce geste incendiaire n'était pas dirigé contre la communauté catholique. Il y a quand même un indice assez fort, c'est-à-dire que la veille de son geste incendiaire, par exemple, il avait envoyé un mail à 300 personnes en expliquant qu'il devait expulser une menace diabolique de la cathédrale parce que lui-même avait subi une agression de la part d'un marginal devant la porte de la sacristie un soir de 2018. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, il était déjà tombé dans une forme de paranoïa, de délire mystique qui témoigne de son état psychique et qui, à mon avis, s'est encore considérablement dégradé ces dernières années.
Oui, Héloïse de Neuville, vous l'avez donc ressenti, ça. Il avait d'ailleurs été interné très récemment. Il venait juste de réintégrer la congrégation fin juillet. Je crois qu'il a été interné de fin juin à fin juillet. À l'évidence, son état s'était dégradé. Où est la faille, selon vous ?
C'est compliqué de le dire. Disons que la faille, pour moi, elle intervient dès 2018, au moment où il se fait agresser devant la porte de la sacristie. Et à ce moment-là, déjà, pour moi, il y a un loupé. Il n'y a aucun suivi psychologique. Alors oui, certes, il est aidé, il est épaulé, il est hébergé, mais manifestement, il était en choc post-traumatique et ça a réveillé des souvenirs de violence extrêmement profonds chez lui. Et tous ses proches ont témoigné qu'il y avait eu un basculement dès ce moment-là. Ensuite, le temps se passe, les OQTF s'accumulent, le travail, ça ne fonctionne pas, et il s'enfonce dans un état psychologique. Il y a le confinement qui n'arrange rien puisqu'il est isolé seul au couvent des franciscains. Et là, l'incendie. Et je pense qu'en prison, il recevait vraiment des soins minimaux d'un point de vue physique et psychique. Déjà, en sortie de prison, il était très 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 affaibli. Peut-être qu'on peut se poser la question de suivi psychiatrique de ces personnes-là, bien sûr.
Sur place en Vendée, hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit « S'en prendre à un prêtre, c'est s'en prendre à l'âme de la France ». Pensez-vous qu'il voulait s'en prendre à la France ?
Non. Très honnêtement, je ne pense pas qu'il voulait s'en prendre à la France. Je pense qu'on a vraiment affaire à un homme malade qui, d'ailleurs, n'a pas... Une question que beaucoup de catholiques posaient au moment de l'incendie, c'était « Mais pourquoi nous ? Et pourquoi pas la préfecture ?» Voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de... Il s'attaque à là où son psychisme a un peu déraillé. Je pense qu'il ne voulait pas s'en prendre à la France. Mais je voudrais juste souligner quand même une magnifique parole, puisqu'on parle des catholiques, des frères Montfortin qui ont dit, nous ne recrutons rien.
Qui l'ont hébergé,
qui l'ont accueilli, qui ont fait honneur à cette tradition d'hospitalité monastique et qui ont dit, nous ne regrettons rien, qui ont poussé la charité jusqu'à son extrême.
On peut rappeler qu'essayer de comprendre, ce n'est en aucun cas cautionner, que cet homme ne pouvait pas être expulsé car il était sous le coup d'un contrôle judiciaire, qu'une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et qu'aucune thèse terroriste n'est retenue dans cette affaire. Par ailleurs, les travaux de réparation de la cathédrale de Nantes après l'incendie sont prévus pour durer jusqu'en 2023. Héloïse de Neuville, journaliste à la Croix, merci à vous. Au revoir.
Merci, au revoir.